Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Retour à CFAC 88.3 FM. Alors, sujet sensible, sujet controversé, sujet brûlant, dans tous les sens du mot, la taxe carbone. On entend parler dans les médias, au Parlement, dans les débats publics, mais souvent de façon très polarisée. D'un côté, ceux qui la voient comme un outil nécessaire pour lutter contre le changement climatique. De l'autre, ceux qui l'accusent de creuser le coût de la vie et d'écraser la classe moyenne. Aujourd'hui, de plus en plus, la voix réclame son abolition partielle, voire totale même. Car certaines provinces la constatent ouvertement, comme la Saskatchewan, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick. Même le chef de l'opposition fédérale, Pierre, en a fait un cheval de bataille politique. Alors, la question est la suivante. Supprimer la taxe carbone, est-ce un soulagement temporaire ou un pari risqué pour l'avenir? D'abord, rappelons c'est ce que c'est. La taxe carbone, c'est un prix appliqué à chaque tonne de CO2 émise dans le but d'encourager ou bien de décourager les comportements polluants. En gros, plus on émet de gaz à effet de serre, plus on paye. Au Canada, ce mécanisme il est mis en place depuis 2019. Et en 2024, il a atteint quand même $80 par tonne et il devrait atteindre $170 d'ici 2030, selon le plan actuel. Et concrètement, ça se traduit par une hausse de prix des carburants, du mazout, du gaz naturel et parfois des produits transportés ou transformés. Mais il faut aussi rappeler une chose, que cette taxe n'est pas seulement punitive, elle est redistributive. Une partie des revenus est retournée directement aux ménages sous forme de remboursement trimestriel. Le fameux incitatif à l'action pour le climat. Et au Québec, ce système fonctionne différemment parce que on est déjà sous un marché de carbone depuis 2013. Mais maintenant, pourquoi que cette taxe fait débat? Parce que depuis 2022, les prix ont explosé. L'inflation, les taux d'intérêt, les loyers, l'épicerie, tout a augmenté. Et pour beaucoup de familles, ajouter une taxe supplémentaire à la pompe, c'est la goutte de trop. Résultat, un rejet émotionnel fort. Souvent, plus fort que l'effet réel de la taxe et des partis politiques qui ont bien compris que ce rejet peut être mobilisé à des fins électorales. Mais que disent les économistes ? La plupart s'accordent à dire que la taxe carbone est un outil efficace, simplement et transparent pour réduire les émissions. Elle envoie un signal clair, polluer coûte cher, direct. Et plus vous trouvez des alternatives comme transport en commun, chauffage plus propre, efficacité énergétique, plus vous économisez. Et sur le plan économique global, une taxe carbone bien conçue est moins coûteuse qu'un système de subventions mal ciblées ou bien des régulations lourdes. Elle récompense l'innovation et favorise la transition. Alors, pourquoi la résistance est-elle si forte? Parce que les coûts sont visibles, immédiats, tangibles, tandis que les bénéfices, eux, sont diffus, lents, collectifs. Quand une taxe vous coûte $10 de plus à la pompe, vous le sentez tout de suite. Mais quand elle permet d'éviter comme un sou ou bien 0,01 de degré de réchauffement ou d'investissement dans un programme de transport collectif, c'est plus difficile à percevoir. Et puis, il y a la question de la justice territoriale. Les ménages en région qui doivent prendre leur voiture tous les jours, qui n'ont pas de métro ni de bus fréquents, se sentent pénalisés. On voit que les taxes carbone comme une punition injuste, faut l'abolir? La réponse n'est pas aussi binaire, ni vrai ni faux. Il est vrai qu'il faut adapter les mécanismes. On peut, comme par exemple, augmenter les compensations ciblées pour les ménages ruraux. Je peux dire aussi bonifier les crédits pour les chauffages propres. Accélérer les investissements les investissements dans les alternatives et surtout mieux expliquer à quoi servent les revenus de la taxe. Mais supprimer totalement la taxe carbone, c'est envoyer un mauvais signal, un signal d'abandon, un aveu de renoncement à long terme. Et regardons ce qui se passe ailleurs. En Suède, la taxe carbone, elle est en place depuis les années 1990. Et elle est aujourd'hui la plus élevée au monde. Résultat, quoi ? Les émissions ont fortement baissé. Et l'économie a continué de croître. Même chose en Norvège, aux Pays-Bas, dans plusieurs pays de l'OCDE. Le secret, c'est quoi ? Une taxe stable, prévisible, une transparence dans l'utilisation des revenus. Au Canada, au contraire, le débat est devenu toxique. On en parle plus de transition, mais de souffrance. On ne parle plus d'investissement, mais de punition. Et cette perception affaiblit toute la stratégie climatique du pays. Car si on recule sur la taxe carbone, et qu'est-ce qu'on met à la place ? Des subventions ? Elles coûtent cher. Et elles sont souvent captées par les plus riches. On peut ajouter des normes par contre, mais elles sont rigides parfois et inefficaces. En effet, la vraie solution n'est pas dans l'abolition, mais dans l'évolution. Il faut repenser que la taxe carbone pour qu'elle soit plus juste, plus visible, plus adaptée au territoire, et surtout s'inscrire dans une vision globale, comme transport, logement, énergie, industrie, car au final, le climat ne négocie pas. Chaque tonne de CO2 émise en compte, et chaque année de retard aura un coût humain, économique, écologique, le fameux trio. Alors oui, la taxe carbone est impopulaire, mais elle est nécessaire et son avenir dépend de notre capacité à mieux la concevoir, mieux la communiquer, mieux l'intégrer à un projet collectif de société. Pour conclure, je voudrais prendre un peu de hauteur, parce que le débat sur la taxe carbone, ce n'est pas juste une question de quelques sous de plus à la pompe. C'est une question de cap économique, d'orientation stratégique, de choix de société. Si on prend du recul sur la taxe carbone, un outil parmi d'autres dans ce qu'on appelle la transition économique verte, qu'on va aborder après, c'est une transition qui vise à réduire notre dépendance aux énergies fossiles, à transformer nos infrastructures, à réinventer nos chaînes de production et à former une main-d'œuvre adaptée aux nouveaux défis. Et certaines transitions que certains présentent comme un fardeau et en réalité une opportunité économique massive. Selon l'OCDE, les investissements dans les technologies vertes, les énergies renouvelables, l'électrification des transports ou la rénovation énergétique peuvent générer des milliers d'emplois, des gains de productivité, une meilleure résilience énergétique, un avantage concurrentiel sur le marché international. Mais pour y arriver, il faut un signal clair. Et ce signal, c'est le prix du carbone. C'est lui qui pousse les entreprises à innover, les citoyens à s'adapter, les gouvernements à planifier. Alors, est-ce que la taxe carbone est parfaite ? Non. Est-ce qu'elle est équitable pour tout ? Pas encore. Mais est-ce qu'on peut s'en passer ? Honnêtement, je peux dire non. Ce qu'il faut, c'est l'améliorer, le rendre plus progressif, mieux cibler les compréhensions et surtout la rendre compréhensible. Parce qu'un prix sur la carbone n'est pas une punition, c'est une boussole. Et si on la casse maintenant ? On risque de se perdre collectivement dans un moment où on a besoin directement on a besoin en fait de direction. Et surtout, n'oublions pas une chose, le coût de l'inaction. Chaque dollar qu'on refuse d'investir aujourd'hui dans la réduction des émissions, il faudra en dépasser 5 ou 10 demain pour réparer les catastrophes climatiques, inondations, sécheresses, pertes. Il y a quoi d'autre ? L'infrastructure à reconstruire, l'immigration climatique, je peux ajouter même les crises sanitaires. Alors, toutes ces réalités auront un coût économique bien supérieur à celui d'une taxe qu'on redistribue aujourd'hui. L'enjeu, au fond, c'est celui de la responsabilité intergénérationnelle et ce qu'on agit maintenant pour prévenir. Où est-ce qu'on attend la facture ou bien on la laisse à nos enfants. La taxe carbone peut être un instrument central de stratégie à condition que l'on sorte l'arène partisante et qu'on la remplace dans une économie nationale cohérente. Je peux dire une politique industrielle verte, des investissements publics structurants, formation massive de la main-d'œuvre, incitation à l'innovation, une justice, voilà. Alors, oui, la taxe carbone dérange, mais peut-être c'est le signe qu'elle fait, c'est qu'elle doit faire. bousculer, par exemple, nos habitudes, réveiller nos choix, amorcer le changement. Et c'est à nous, collectivement, d'en faire un levier transitoire, juste, efficace, durable, pas un simple impôt de plus, mais un investissement dans notre avenir. Vous êtes toujours à l'écoute de l'économie en mouvement, c'est 88.3 FM. On prend une courte pause et on revient avec notre dernier sujet, dernier bloc, qui est sur l'économie verte. Est-elle un mythe ou une réalité? Un peu de philosophie économique. On va discuter les investissements, les rendements d'emploi. Qu'est-ce que cela révèle du rêve et qu'est-ce qui se construit déjà sous nos yeux?